partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Axel Maugé.
Dans cette première émission, Axel Maugé, auteur d'un essai qui s'intitule « Les élites argentines et la France », essai qui est paru aux éditions de L'Harmattan en 2004, évoque sa rencontre avec un couple d'intellectuels argentins ayant souffert de la censure et de la dictature, Horacio Salas et Graciela Isnardi.
L'hiver austral est généreux. Puisque la température dépasse aujourd'hui les 10 degrés et que, de surcroît, un ciel bleu couleur des pupilles de Michel Morgan éclaire les avenues joyeuses de Buenos Aires. Même si je me trouve au cœur d'une ville chère aux spéculateurs, je ne veux profiter que de sa poésie, celle qu'offre la vraie marche, celle où l'on n'arrête pas de se perdre avant de pouvoir s'orienter. Par une matinée presque caressante du mois d'avril, j'investis une cité partagée entre le rêve et la réalité. L'intensité de la vie bourdonne autour de moi, tandis que j'observe la rangée d'immeubles modernes entourant la Plaza San Martín, aperçue de l'Avenida del Libertador. Au premier plan, à quelques pas, un taxi Renault, jaune et noir, butine. À plusieurs centaines de mètres sur la gauche, quatre buildings modernes, argentés, luisent tels des navettes spatiales. À droite, le plus vieux gratte-ciel de Buenos Aires monte vers le ciel tel un donjon où se serait réfugiée la dame de notre cœur. Juste en arrière apparaît le clocher apaisant d'une église. Dans cette ville, les contrastes sont saisissants, d'autant plus qu'au milieu des artères rugissent les autobus, taureaux impatients que les feux de circulation toréador habiles arrêtent in extremis. Le soleil frappe de plein fouet les façades blanches, ocre, rose, argentée et grise des immeubles qui s'avancent en vagues successives sous un ciel impeccable. Ce matin, les artistes peintres travaillent déjà, Plaza Francia. En ce lieu naturel, poétique, tout invite à la réflexion. Et pourtant, cette tranquillité ne peut m'empêcher d'oublier que ce pays a été déchiré par des luttes fratricides. Je longe à présent le complexe touristique de la Recoleta. Tandis que je me rapproche du domicile des Salas, j'aperçois un policier inspectant pour le plaisir une deux chevaux un peu délabrée. Je découvre, non sans étonnement, que les voitures françaises chargées de symboles intéressent même la maréchaussée argentine. Je le prends en photo, amusé par cette scène légèrement surréaliste, continue ma route, engloutis encore un espace peuplé d'immeubles luxueux, me réjouis en lisant le nom d'un restaurant-bar, le Rodin. Sonne bientôt chez Horacio Salas et son épouse Graciela Isnardi. Ils m'attendent dans leur agréable appartement de l'Avenida República de la India. Ce couple d'intellectuels a du charme, une fraîcheur, aussi que l'existence n'a pas effacé. Lui ressemble à François Nourricier. Le col ouvert de sa chemise blanche accentue la blancheur de sa barbe et celle de sa moustache. Le front de cet homme est vaste. Son sourire empreint de timidité dévoile un être particulièrement sensible. Elle m'offre un sourire de joconde. Des cheveux blonds, dont quelques mèches caressent le haut des tempes, entourent son visage harmonieux. Telle des braises, ses yeux pétillent. Cette femme chaleureuse, cordiale, simple, a vécu, vit et continuera à vivre avec intensité jusqu'à son dernier souffle. C'est une batailleuse, une protectrice, une louve. Poète et essayiste réputé, Horacio Salas insiste d'emblée sur sa passion pour les surréalistes et principalement Paul Éluard. Sur sa table de travail trône, posée en évidence, l'anthologie des surréalistes traduite par Aldo Pellegrini. De Breton, il apprécie son texte sur l'Union libre. Il ne se lasse pas de lire les poètes. La collection des poètes d'aujourd'hui publiée chez Pierre Segers lui a longtemps permis de voyager au cœur des créations de l'esprit. Sa propre œuvre est présente dans la plupart des anthologies dignes de ce nom d'Amérique du Sud. En tant qu'essayiste, je sais qu'il a publié entre autres « La Poesia de Buenos Aires » 1968 et « La Generación Poética del 60 » 1975. Son œuvre comprend au moins 25 livres. Les principaux s'intitulent « Memoria del Tiempo »« Mémoire du temps » 1966, « La Corruption » 1969, « La Corruption » Questiones personales, 1985, question personnelle, El otro, 1990, El l'autre. Il est aussi reconnu comme l'un des meilleurs historiens du tango. Son essai remarquable El tango, je ne traduis pas, 1986, a été traduit en français par la maison Actes Sud. Dans cette trop brève présentation, il serait regrettable d'omettre son ouvrage sur Borges, Una biografía, 1994, dont la troisième édition est déjà épuisée. Précisons enfin que certains de ses livres ont été traduits dans plus d'une dizaine de langues. Horacio Salas, ancien journaliste et universitaire, dirige actuellement le Fonds national des arts. J'ai appris de sources sûres que cet universitaire respecté a dû s'exiler en Espagne durant la dictature militaire, c'est-à-dire durant la dernière dictature militaire, c'est-à-dire de 1976 à 1983. Mon interlocuteur, s'il comprend le français, ne le parle pas. Aussi, est-ce sa délicieuse épouse qui me sert d'interprète lorsque le besoin s'en fait sentir ? Après plusieurs autres personnalités, il me confirme que l'influence culturelle française a été considérable en Argentine. Les noms de deux Français, ceux d'Amédée Jacques et de Paul Groussac, apparaissent bientôt sur ses lèvres. Le premier, m'apprend-il, a connu son heure de célébrité au XIXe siècle en dirigeant le collège national que fréquentait l'élite. Le second, un communard, arrivé à Buenos Aires en 1870, demeure un personnage encore très vivant dans les mémoires. Directeur de la Bibliothèque nationale, créateur de la revue Biblioteca, qu'il utilisera pour encourager de nombreux auteurs, Paul Groussac, avant de mourir en 1929, retiendra l'attention de Jorge Luis Borges, lequel publiera plus tard en hommage une sélection de ses meilleurs articles. Il est reconnu que ces deux figures françaises, choisies parmi un florilège, ont permis au milieu littéraire argentin de mûrir. Un dictionnaire de la littérature argentine qui doit paraître sous peu rendra certainement à César ce qui revient à César. En réalité, l'argentinisation nécessaire commencera à prendre de l'ampleur grâce à l'activité incessante de Victoria Ocampo et de ses amis. Elle se poursuit aujourd'hui. Alors que jusqu'en 1989, l'opéra était le fief des Italiens, la même année, à la demande de Carlos Menem, donc le président Carlos Menem, pour la première fois, la cérémonie de gala fut célébrée en offrant aux invités de la musique argentine. Compte tenu de la place de la France en Europe et de son poids historique mondial, Horacio Salas regrette, après d'autres, que son influence en Argentine ait nettement diminué. Il constate par exemple que parmi les 10 membres du Fonds national des arts, un seul a étudié en France, contre un en Allemagne, un en Italie, 3 en Argentine et 4 aux États-Unis. À présent, ajoute-t-il l'air déçu, la plupart des étudiants se tournent vers le grand voisin du Nord. Le couple Salas, qui a eu 3 enfants, précise que 2 d'entre eux y sont installés. Le premier, un linguiste, a épousé une Américaine. Le second a eu le mérite d'obtenir une bourse de doctorat afin de se spécialiser en chimie du cerveau. L'attraction des États-Unis est assurément puissante. Ils savent être accueillants. Certains propos tenus par le docteur Santiago Besuccio me reviennent à l'esprit. Sans la moindre hésitation, les Salas considèrent que l'Argentine est devenue une sorte de colonie américaine. Tous les économistes sont formés là-bas. Mon interlocuteur n'hésite pas à répéter qu'il trouve la place de la France en Argentine insuffisante. Les francophiles argentins se sentent abandonnés, martèle-t-il. Et pourtant, la France n'a pas été ingrate avec mes hôtes. Sa femme a reçu les palmes académiques. Quant à lui, il a été nommé chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Cela n'a visiblement pas suffi à les apaiser, puisqu'il continue de se plaindre devant moi de la faiblesse des services offerts par notre pays en Argentine. Faiblesse d'une part dans le domaine de la communication et d'autre part de l'Alliance française qui ne s'adresse selon eux qu'à des débutants. Dans ces conditions, on comprend que les décideurs ne soient guère motivés par d'autres civilisations. Le message des époux Salas est clair, presque cruel. Les États-Unis mettent le paquet en Argentine, tandis que la France joue la belle au bois dormant en dépit de certains succès économiques. Mes hôtes ne cachent pas qu'ils attendent davantage d'elle. Un brin nostalgique, ils ajoutent, il y a encore moins de 30 ans, pour un écrivain argentin aller en France, c'était le rêve. Le voyage à Paris était fondamental. En les écoutant insister sur le fait qu'il sera difficile de remonter la pente, je me demande s'ils ne sont pas un peu trop pessimistes. D'après ce que j'ai lu, les artistes argentins ont énormément apporté à notre pays. Ils continuent d'ailleurs d'être fort appréciés. Le souvenir de Carlos Gardel, ce Français d'origine, revenu plus d'une fois jouer ses fameux tangos à la Coupole et au Moulin Rouge, ne s'estompe pas. Piazzolla, avec son bandoléon sublime, lui a ensuite succédé, plus tard Esquina, Adele Alba et Susanna Rinaldi. Autant de musiciens mélodieux sont venus séduire la ville lumière. Aujourd'hui, Daniel Barenboim, pianiste et chef d'orchestre talentueux, né en Argentine, a présenté en avril 1996, sur la scène du Châtelet, un récital de tango en reprenant des airs de Gardel et de Piazzolla. Dès 1948, le folklore argentin a été présenté en France par Atahualpa Yupanqui, lequel s'est même fixé dans la capitale. Exilé dans notre pays durant la dernière dictature, Miguel Ángel Estrella a donné à son tour de nombreux concerts. Grâce à lui, la musique est devenue un instrument de solidarité. D'autres artistes sont venus chanter ces dernières années à Paris, par exemple Mercedes Sosa, qui a offert son spectacle à Pampa à l'Olympia et à l'Opéra devant des salles combles, ou encore Jairo, lancé par Paco Ibáñez, qui a fortement ému en chantant la poésie de Borges. Dans le domaine scientifique, au CNRS, il paraît que les Argentins occupent en nombre la deuxième place après les Français. De même, ai-je appris qu'à l'INSERM, plus de 100 savants d'origine argentine ont obtenu des succès mérités depuis 1970. Parmi eux, la doctoresse Liliana Kaplan s'est illustrée en développant une nouvelle méthode de diagnostic prénatal. Depuis les années 1920, Paris accueille des Argentins spécialisés dans les arts plastiques, la littérature, le cinéma, la photographie et le théâtre, bien sûr. Faut-il rappeler qu'en 1944, le groupe argentin Madi repose le problème de l'espace pictural et le lance en Europe à partir de la ville Lumière. C'est l'époque où des artistes comme Julia Cosice, Lidie Prati et Thomas Maldonado exposent en France leurs premières œuvres. Certains peintres s'installent alors à Paris, parmi eux Carlos Torralardona, Raoul Russo et Pérez Celis. Ils sont bientôt suivis par le talentueux Aritonio Segui, lequel peint des murales notamment pour l'aéroport Charles de Gaulle. Souvenons-nous encore qu'en 1977, le musée d'art moderne de Paris, 6 avenue du président Wilson, a rendu un vibrant hommage à l'œuvre du sculpteur argentin Libero Badi, fasciné par le portail de la cathédrale de Chartres. Autre exemple de ces échanges multiples en avril 1996, la galerie Lucivel, rue Bonaparte, a accueilli le peintre argentin Roberto Platé. Cet homme libre, selon les propres mots de Marguerite Duras, établit un dialogue entre l'espace et la couleur, manipule les lumières, dépasse les jeux habituels de l'imagination. Son œuvre est belle, profonde, transparente. Dans les pages de Paris Match, l'humour des Argentins Coppi et Mordillo rivalise d'ardeur avec les dessins amers de Sergio Serguille, révélé lui par le journal Le Monde. De même, de nombreux dramaturges argentins sont régulièrement accueillis en France. Les œuvres de Juan Peinero, Griselda Gambaro, Manuel Ruiz ou Roberto Cossa retiennent entre autres l'attention. Depuis une vingtaine d'années, les échanges se sont même transformés en feux d'artifice grâce à des hommes de théâtre d'origine argentine tels que Jorge Lavalli, Coppi, Rodi, Arias et Victor Garcia, lesquels ont rejoint le français Jérôme Savary, né lui-même en Argentine. Ces artistes ont ouvert de nouvelles voies dans la mise en scène et se sont tellement bien intégrés à la France que le public ne sait souvent pas qu'ils viennent du pays de la libre pampa. Jorge Lavalli, devenu directeur du théâtre de la Colline, nous offre régulièrement des spectacles baroques et surréalistes. De son côté, Alfredo Arias, qui préside aux destinées du théâtre de la commune d'Aubervilliers, a su enchanter Paris en 1993 avec une pièce intitulée « Mortadelle ». Il s'agit d'une sorte de revue frivole narrant les événements d'une Buenos Aires oubliée. En outre, il a récemment présenté, ai-je déjà souligné, son nouveau spectacle intitulé « Un Faust argentin » d'après un long poème d'Estanislao del Campo. Le moment est venu de saluer la mémoire de plusieurs écrivains argentins qui ont été eux aussi fascinés par Paris. En tête, caracole Victoria Ocampo, Jorge Luis Borges et Julio Cortázar. Longtemps, le grand argentin de Paris fut de la vie unanime Julio Cortázar, disparu en 1984. Dans son roman « La Marelle », il transcrit non sans humour une lettre de Jacques Vacher adressée à André Breton. Je cite « Rien ne tue un homme autant que l'obligation de représenter un pays ». Fin de la citation. Et pourtant, paradoxe fécond, de Paris, il n'arrêtait pas d'écrire sur l'Argentine des romans fascinants. Je cite « La fin du jeu », « Les armes secrètes », « Le livre de Manuel » et « Les autonautes de la cosmoroute ». C'était un auteur toujours prêt à défendre les peuples qui souffrent. N'est-ce pas de son côté le dynamique Roger Caillois qui publiera en à peine une vingtaine d'années pas moins de 20 écrivains argentins de premier plan? Faut-il préciser que l'œuvre magistrale de Jorge Luis Borges influencera des auteurs tels que Michel Butor et Alain Robbe-Grillet? Chez Borges, ainsi que le souligne Ernesto Sabato dans ses œuvres romanesques, je cite, le poète décrit les cours de l'enfance, les mélancoliques quartiers de Buenos Aires et la pampa d'autrefois. Rien d'étonnant alors que la collection de la Pléiade ait publié le premier tome des œuvres complètes de Borges en 1993, tandis que le Centre Pompidou lui rendait un vibrant hommage, le deuxième tome est paru en mai 1998. Plusieurs autres œuvres d'écrivains argentins contemporains n'en finissent pas de séduire les lecteurs français. Il suffit de rappeler l'invention de Morel de Bioy Casares et le tunnel d'Ernesto Sabato. N'est-ce pas dans la richesse de la rencontre avec d'autres cultures que l'identité de chacun se conforte, se transforme, s'épanouit?
Vous venez d'entendre la première émission consacrée à ce couple d'intellectuels argentins Horacio Salas et Graciela Isnardi. Une seconde émission existe dans notre médiathèque.